Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 31 janvier 2023. Le pape François a été accueilli aujourd'hui avec ferveur à Kinshasa, première étape de sa visite en terre africaine. Des experts de l'ONU demandent une enquête sur de possibles crimes de guerre au Mali. Une nouvelle attaque dans le nord du Bénin a fait un mort et toute une école réduite en cendres. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré aujourd'hui en Cisjordanie le président palestinien Mahmoud Abbas. En France, les syndicats ont maintenu la pression massive dans la rue contre la réforme des retraites. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco. Le Congo-Brazzaville augmente de 5% le prix du carburant. Et pour les sports, les demi-finales aujourd'hui du CHAN en Algérie. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Accueil populaire du pape François qui est arrivé ce mardi à Kinshasa. Il y restera jusqu'à vendredi dans le plus grand pays d'Afrique qui a pour religion le catholicisme. Il sera beaucoup question de paix et de réconciliation durant la visite du souverain pontife. Le point depuis le palais de la nation de Kinshasa avec Anastasie Toudièche.
Il est là, enfin, le pape François arrive en terre congolaise pour la première fois de son pontificat. Pour le premier pays catholique d'Afrique, l'événement est de taille et les près de 3 millions de personnes attendues pour la première messe que le souverain pontife célébrera se mettent déjà en route vers le site de la célébration, un ancien aéroport désaffecté, rénové pour l'occasion. La messe aura lieu demain, mais une immense veillée de prière est prévue qui va commencer à 18h ce soir pour durer jusqu'au petit matin. Une chose me frappe, l'arrivée du pape François est saluée et fêtée par les catholiques, mais pas seulement. Les membres des autres confessions, qu'ils soient musulmans, protestants, membres des églises de réveil ou kimbanguistes, tous saluent la présence d'un homme roumain et en espèrent des bénédictions. Autre immense espoir lié à la présence du pape François en RDC, la paix dans l'est du pays notamment. Il va d'ailleurs rencontrer un groupe de survivants venus spécialement de Goma. Et rappelons le thème de son voyage, tous réconciliés en Jésus-Christ. Autre face-à-face très attendu, le pape, 86 ans, et les hommes, qui promettent de lui réserver, m'ont-ils dit, un accueil digne d'une rockstar le 2 février prochain, au stade des Martyrs, dont on peut parier que les 80 000 places seront toutes occupées. Monseigneur Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, lui, qualifie la présence de François de visite de réconfort pour un peuple qui a énormément souffert et continue de souffrir. Le pape reste 3 jours en RDC avant de s'envoler pour le Soudan. 3 jours que les Kinois, dans leur grand ensemble, et les Congolais plus généralement, m'ont dit vivre comme une parenthèse spirituelle à la fois inespérée, le voyage du pape ayant été repoussé une première fois, et nécessaire. Anastasie Tudiège au Palais du Peuple à Kinshasa pour VOA Afrique.
Plusieurs bases du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest ont été pilonnées en fin de semaine dernière dans la région du lac Tchad par des forces du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad avec l'appui d'un drone américain. Cette opération spéciale a été décidée après qu'une cinquantaine de terroristes ont été observés dans cette région à la fin du mois de janvier, indique un communiqué de la force multinationale mixte. À Toura, un arrondissement de la commune de Banikoara, dans le nord du Bénin, des individus armés non identifiés ont attaqué et brûlé l'école primaire publique Gimbagou. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Genève Fleur-Adandé.
Encore une nouvelle attaque dans le nord du Bénin. Le bilan cette fois-ci est 2 morts et toute une école réduite en cendres. Selon une radio locale, l'attaque a eu lieu dans la nuit dernière. Ils ont incendié l'école, brûlé la moto d'un enseignant dont le téléphone portable a été arraché. La même radio précise que le chef de village de la localité a été tué. Une enquête policière est ouverte pour retrouver ces individus qui ont disparu dans la nature après leur forfait. Situé dans le département de l'Alibori, Banikoara fait partie des zones d'insécurité. Plusieurs tas d'attaques terroristes ont déjà été enregistrés dans cette partie du Nord Bénin. Plusieurs fois, des écoles ont fait l'objet de menaces sérieuses, mais c'est la première fois qu'une de ces menaces a été exécutée. De Cotonou, Genève, dans les Pouvoirs Afrique.
Des experts de l'ONU appellent à une enquête indépendante immédiate sur d'éventuelles violations des droits de l'homme commis au Mali depuis 2021. Ils pointent du doigt les forces gouvernementales et le groupe paramilitaire russe Wagner. Le point avec Rosine Monevero.
Les experts de l'ONU disent avoir reçu des récits alarmants d'exécutions sommaires, de charniers, d'actes de torture, violences sexuelles, pillages, détentions arbitraires et de disparitions forcées qui auraient été perpétrées par les forces armées maliennes et leurs alliés dans la région de Mopti et ailleurs depuis 2021. Nous sommes troublés par l'augmentation apparente d'attribution de fonctions militaires traditionnelles au groupe Wagner dans diverses opérations militaires, y compris des opérations définies comme antiterroristes à Niahouro, Gouni et Fakala, ont déclaré ces experts, ajoutant que la plupart des victimes appartiennent à la minorité Peul. L'utilisation de groupes militaires privés ne fait qu'exacerber le cycle de violence et d'impunité qui prévaut dans le pays, ont-ils déclaré. Les experts onusiens affirment qu'ils ont directement fait part de leurs préoccupations au gouvernement malien.
L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a appelé à mettre fin à l'impunité d'un ex-chef rebelle Hassan Bouba Ali, ministre centrafricain, accusé de crimes par la Cour pénale spéciale. La CPS l'avait inculpé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La capitale somalienne Mogadiscio était en alerte ce mardi à la veille d'un sommet régional consacré à la lutte contre la rébellion djihadiste des Chebab. Des leaders de pays membres de la force de l'Union africaine qui combat les rebelles vont discuter des moyens de faire face ensemble à leurs actions dans la région, a indiqué le gouvernement somalien. Les ministres de la Défense de Djibouti, d'Éthiopie et du Kenya étaient mardi à Mogadiscio pour préparer la rencontre, précise dans un communiqué le ministère somalien de l'Information.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken était ce mardi en Cisjordanie occupée. Il a exprimé sa tristesse après la mort de Palestiniens innocents dans les violences israélo-palestiniennes lors d'une rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Mohamed Oumfa.
C'est au quartier général de l'autorité palestinienne à Ramallah en Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, qu'Anthony Blinken a rencontré Mahmoud Abbas. Permettez-moi de commencer en transmettant mes condoléances et en exprimant ma tristesse pour la mort de civils palestiniens innocents ayant perdu leur vie dans l'escalade de violence au cours de l'année écoulée, a-t-il déclaré. Palestiniens comme Israéliens ont un sentiment croissant d'insécurité, une peur croissante chez eux, dans leur communauté et dans leur lieu de culte, a regretté M. Blinken. Nous pensons qu'il est important de prendre des mesures de désescalade, d'arrêter la violence, de réduire les tensions, a-t-il ajouté, mettant en garde contre toute démarche qui compromet la solution à deux États, Israéliens et Palestiniens. La tournée du chef de la diplomatie américaine, qui était prévue de longue date, a commencé dimanche en Égypte et s'est achevée ce mardi. Elle a eu lieu après plusieurs jours de violence, marquée par des attaques palestiniennes à Jérusalem-Est, qui ont fait 7 morts et des raids meurtriers de l'armée israélienne en Cisjordanie.
Le président américain Joe Biden a opposé hier un refus catégorique à l'idée d'envoyer à l'Ukraine des avions de combat américains de type F-16. Les Occidentaux viennent de franchir un palier dans l'aide militaire apportée à l'Ukraine après que l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé l'envoi de chars. En France, des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays pour protester contre la réforme des retraites, projet phare du président Emmanuel Macron. Claire Morin-Gibou.
La mobilisation a été forte. À Paris, le syndicat CGT a affirmé comptabiliser quelques 500 000 personnes, mais également dans les grandes villes comme Marseille ou à Nantes. Les manifestations ont été marquées par une forte présence de femmes protestant contre une réforme dont elles s'estiment les grandes perdantes. Tous les leaders syndicaux se sont félicités d'une affluence supérieure à celle de la première journée de mobilisation. En revanche, le nombre de grévistes a semblé en baisse dans plusieurs secteurs publics et privés. La réforme des retraites, chantier crucial du second quinquennat d'Emmanuel Macron, prévoit un recul de l'âge légal de 62 à 64 ans et une accélération de l'allongement de la durée de cotisation.
Le bilan de l'attentat au Pakistan s'élève désormais à 100 morts. Cette attaque spectaculaire illustre la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville, dans cette ville du nord du ouest. Du nord-ouest du Pakistan, proche de la frontière avec l'Afghanistan. Par ailleurs, toujours au Pakistan, le bilan du naufrage dimanche d'un bateau surchargé transportant sur un lac des élèves en sortie scolaire s'est alourdi mardi à 51 morts, dont 49 enfants. Et puis le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin et son homologue
sociologue sud-coréen Lee Jong-soop ont annoncé à Séoul le renforcement de leur coopération militaire et sécuritaire face aux velléités de la Corée du Nord dotée de l'arme atomique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Congo-Brazzaville augmente de 5% le prix du carburant. Le litre d'essence à la pompe passe de 595 à 625 francs CFA à partir de ce 31 janvier, soit une augmentation de 30%. Celui du gazole de 475 à 500 francs CFA, soit une hausse de 25 francs CFA, suivant l'annonce officielle du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, faite au début du mois au cours d'une rencontre avec les associations des consommateurs et les syndicats de transporteurs cités par les dépêches de Brazzaville. L'Angola a exporté 8,83 millions de carats de diamants en 2022 pour 1,95 milliard de dollars de revenus, soit une augmentation de 1,38% par rapport à 2021, a révélé vendredi le ministère des Ressources minérales, du pétrole et du gaz. Le diamant angolais a été principalement exporté vers les Émirats arabes unis avec 67,91%, la Belgique avec 21,25% et la Chine avec 10,82%, notifie Alexandre Gare, le directeur du Bureau des études, de la planification et des statistiques du ministère susmentionné. Pour terminer, le Fonds monétaire international a approuvé une facilité de financement élargie de 86,9 millions de dollars pour la Mauritanie. Cette décision permet un décaissement immédiat de 21,7 millions de dollars. Le restant sera versé progressivement au cours d'un arrangement de 42 mois dans le cadre de la facilité de crédit prolongée.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec les demi-finales du CHAN en Algérie.
Oui, la première demi-finale oppose le Niger au pays hôte. Le MENA local, qui est à sa quatrième participation, a fort à faire devant les Algériens, devant leur public local très bouillant. Juste après, la deuxième demi-finale met aux prises le novice Madagascar et le Sénégal.
Une autre compétition majeure sur le continent, le mondial des clubs, débute demain au Maroc.
La rencontre entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Néo-Zélandais d'Auckland City ouvre le bal à Tanger. Sept clubs prennent part à cette nouvelle compétition qui regroupe les champions continentaux des zones FIFA, plus le champion en titre du pays hôte. Il s'agit du Real Madrid, Al Hilal d'Arabie Saoudite, les Américains de Seattle Sounders, Auckland City, Flamengo du Brésil, Al Ahly d'Égypte et le Wydad de Casablanca. Justement, sur place à Casablanca, nous retrouvons notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est pour la troisième fois que le Maroc accueille cette compétition après les éditions de 2013 et de 2014. Les récents exploits des clubs du Maroc sur le continent ne sont pas étrangers à cette attribution. Il faut noter que le Maroc, qui a été demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, 2022, a vu ses clubs s'imposer sur le continent en remportant la Ligue des Champions, la Coupe CAF, la Super Coupe et aussi la Ligue des Champions féminine. Il faut aussi noter que lors de cette compétition, c'est une belle vitrine pour le Maroc qui veut organiser la CAN 2025 et qui est aussi en liste pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est l'occasion de faire voir les réalisations du pays dans le domaine des infrastructures et des accueils. Pour l'occasion, la Fédération royale marocaine a invité plus d'une centaine de journalistes venus d'Afrique et du continent pour couvrir cet événement majeur qui prendra fin le 11 février prochain. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique depuis Casablanca.
Basketball ici à NBA, Luka Doncic torpille Détroit.
Luka Doncic, intenable avec 53 points, a encore joué le Superman pour Dallas à Détroit 111-105. Dallas demeure en sixième position à l'ouest derrière le champion en titre Golden State qui a confirmé son redressement actuel à Oklahoma City 128-120. Face au mal classé Orlando, Philadelphie s'est sabordé 119-109. Philly cède du même coup sa troisième place à Milwaukee. À Brooklyn, le match contre les Los Angeles Lakers a tourné à l'avantage des Nets 121-104 Portland a battu Toronto 129-125. À San Antonio, Washington n'avait plus gagné depuis le 11 décembre 1999. Les Wizards ont brisé la malédiction s'imposant 127-126 devant les Spurs.
Page de sport VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En direct de Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, l'UNICEF, la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et la délégation de l'action sociale offrent une opportunité de formation aux petits métiers, aux jeunes réfugiés et autochtones désœuvrés des trois provinces du sud du pays. Il s'agit du Logon oriental, du Mandoul et du Moyen Chari. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, a fait un tour dans ce centre de formation. Reportage.
J'ai un master en sciences de l'éducation. J'ai accepté parce qu'il n'y a pas de travail. Dans cette ville, il faut toujours se battre. Même si tu as un gros diplôme, donc je ne peux pas croiser les bras et attendre à ce qu'on m'intègre.
Pendant que des milliers de diplômés sans emploi revendiquent leur intégration à la fonction publique à travers la rue, Service Dimaldé, originaire de Moïsala, cherche à avoir un métier et la menuiserie a toujours été le métier de son rêve.
Il y a longtemps, j'étais même en train de chercher une occasion pour apprendre la numérique. Je remercie l'occasion de se présenter et je suis inscrit pour venir apprendre. Peut-être qu'un jour, je peux ouvrir même un atelier. Ça va me permettre d'avoir un petit sou pour subvenir à mes besoins et également m'occuper de la famille. On vient de débuter à peine un mois. On apprend presque tout. Voilà les tabourets, les tables. Tout ce que vous voyez ici sont nos réalisations. Rien n'est facile dans cette vie. Il faut toujours apprendre.
À côté de ce futur menuisier, il y a un autre groupe qui a opté pour la future. À moins de 3 mois de formation, le futur couturier aussi affirme avoir appris beaucoup de choses.
Le premier jour là, c'est difficile. Je pense que j'ai fait un mois déjà là, ça va quand même.
Je fais serrer, bagué pour les femmes. Avec mon état là, je suis utilisé pour cela, je suis venu ici pour apprendre la machine. Le début qui est difficile, mais actuellement là, je maîtrise, mais pas totalement. Il faut s'approcher des petits messieurs pour débrouiller dans ta vie.
Moi, avant là, j'ai fait école là, c'est la maladie m'étrange, et j'ai resté comme ça là, c'est pas bien. Donc, je suis venu ici là, apprendre la machine. Je peux aider aussi. Mon mari quelque part aussi. Et on a commencé le ménage pour pantalon. C'est vrai pour les enfants. Et aujourd'hui encore, on fait complet du paille. Et je pense que.
Maintenant, donc plus de 70% des réfugiés sont formés dans le domaine de la menuiserie et couture, répartis dans 2 centres, à savoir 40 à Moïsala, chef-lieu du département de Barsara, et 40 au centre de Marou, dans la province du Moyen Chari. Pour Richard Ngamadi, responsable de la protection de l'enfance de World Vision basée à Moïsala, les critères de sélection de ces apprenants sont liés à la vulnérabilité et à l'inclusion.
Les apprenants et les apprenantes qui sont dans ces centres sont la plupart des personnes qui ont subi toute forme de violence, que ce soit la violence basée sur le genre ou autre forme de violence. Nous avons pris aussi avec les partenaires, bien sûr, qui nous ont aidés à prendre aussi, par exemple, des personnes vivant avec handicap, donc l'inclusion. Il y a aussi des enfants orphelins qui sont là dans ces centres. Nous avons laissé volontiers à ces apprenants de pouvoir s'exprimer. L'apprenant qui pense qu'il peut faire la couture, il fait la couture. L'apprenant qui pense qu'il peut faire la menuiserie, il peut faire la menuiserie. Il y en a qui ont demandé d'autres types de formations, malheureusement. Le centre n'offre que pour le moment pour les deux.
Des kits de fin de formation sont déjà prévus pour tous les apprenants afin de faciliter leur insertion sociale. André Kadimadina, de retour de Moïsala, Ndiamena, pour
VOA Afrique, Ndiamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Le camp de réfugiés somaliens de Dadaab au Kenya, le plus grand camp de réfugiés sur le continent, va devenir encore plus grand. Le Kenya a donné plus de terres à ce camp surpeuplé afin de le désengorger, alors que des milliers de Somaliens fuyant la sécheresse et la guerre arrivent à Dadaab. Le reportage de Juma Majanga depuis le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, le récit est de Rosine Monezero.
Zamzam Omar, une réfugiée somalienne non enregistrée, avait toujours entendu des histoires sur la vie dans les camps au Kenya. Elle est arrivée au camp de Dadaab avec ses 5 enfants il y a 6 mois, après un attentat à la bombe près de leur maison à Mogadiscio, qui a blessé et traumatisé son fils de 10 ans. Mais la vie ici n'a pas été celle à laquelle elle s'attendait.
On ne nous a donné que des jetons de nourriture. Nous n'avons pas été inscrits, ni n'avons pas reçu de carte de réfugié ou quoi que ce soit d'autre.
Elle fait partie des près de 100 000 réfugiés somaliens qui ont fui au Kenya pour échapper à la sécheresse et aux conflits dans leur pays. Le Kenya a interdit l'enregistrement de nouveaux réfugiés dans le camp surpeuplé de Dadaab. Les nouveaux arrivants ont dû vivre dans des installations temporaires à l'extérieur du camp avec des équipements limités. John Mwangi, responsable du programme humanitaire et des réfugiés à CARE International à Dadaab.
La plupart des terres où ils s'installent manquent de services de base. Il n'y a pas d'eau, il y a un manque de latrines, l'assainissement est un problème. Bien sûr, il n'y a pas d'école, même pas d'hôpitaux. Donc la situation est mauvaise.
Le gouvernement kényan a périodiquement menacé de fermer complètement le camp de Dadaab. Maintenant, pour désengorger ce camp, le gouvernement kényan a approuvé la réouverture de deux autres camps qui ont été fermés en 2016. Les organismes d'aide affirment que cette mesure était attendue depuis longtemps. Guy Avognon est le chef du HCR à Dadaab.
Le PAM nous alerte déjà sur le fait que ses capacités sont dépassées parce que toutes ces personnes arrivent dans des camps déjà existants, dont la plupart atteignent maintenant 100 000 personnes chacun. Chacun des camps avoisine maintenant les 100 000 personnes, comprenez bien, alors que la capacité est bien inférieure. Le PAM nous dit que d'ici février, il ne pourra plus ajouter de personnes à la liste, ce qui nous conduit à la nécessité d'ouvrir de nouveaux camps.
Malgré toutes ces difficultés, Zamzam Omar a bon espoir d'avoir accès aux produits de première nécessité.
J'aimerais avoir de l'espace dans ce nouveau camp où je peux obtenir la sécurité et les services de base comme l'eau, un abri et une éducation pour mes enfants.
Actuellement, le gouvernement kényan affirme que seuls les réfugiés enregistrés seront installés dans ces nouveaux sites. Les réfugiés non enregistrés comme Omar attendent toujours et espèrent que les nouveaux arrivants seront finalement reconnus comme des réfugiés. Le Kenya est déjà l'un des principaux pays d'accueil de réfugiés en Afrique, avec plus d'un demi-million de réfugiés provenant principalement de Somalie et du Soudan du Sud.
La Banque centrale du Nigeria a mobilisé 30 000 agents pour aider les personnes vulnérables et celles vivant dans des zones reculées à échanger leur argent contre la nouvelle monnaie nationale. La banque a également repoussé de 10 jours la date limite pour échanger les anciens billets estimés à 30% qui sont encore en circulation. Le reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja, le récit avec Michel Joseph.
Le déploiement des 30 000 agents de la Banque centrale du Nigeria fait suite à l'annonce dimanche d'une prolongation de 10 jours de la date limite du 31 janvier pour que les citoyens échangent leurs anciens billets contre la nouvelle monnaie. La Banque centrale a déclaré que ce geste visait à permettre à un plus grand nombre de citoyens d'échanger les anciennes coupures et réduire le risque de perte, en particulier pour les habitants des zones rurales qui ont un accès limité aux services bancaires. La CBN a aussi approuvé une période de 7 jours après la nouvelle date butoir, au cours de laquelle les citoyens qui détiennent encore l'ancienne monnaie doivent déposer ces billets directement à la banque centrale. Si beaucoup se félicitent de l'allongement du délai de conversion, Prince Iromosele, résident d'Abuja, estime que la CBN a succombé aux pressions de la classe politique.
J'avais ce sentiment qu'elle pourrait être prolongée en raison des réactions des deux principaux candidats à la présidence. Je suis honnête, je suis très déçu par le gouverneur de la Banque centrale. Le 31, c'est le 31. Les Nigérians avaient commencé à s'y adapter. Il faut juste établir des règles et les respecter.
La mesure lancée en octobre a vu la refonte des billets de 200, 500 et 1000 naira. Cette initiative est censée lutter contre la contrefaçon, encourager davantage les paiements en ligne et réduire la criminalité, notamment la pratique de l'achat de votes à l'aide de réserves d'argent accumulées. Le Nigeria organise des élections générales le 25 février. Ndou Nwokolo est associé principal chez NextYear, un groupe de réflexion sur les politiques publiques.
Je pense que la CBN a examiné certaines variables critiques du système en fonction de la situation actuelle. Il y a des élections en cours, des pressions de la part des partis politiques, la crise du carburant. Tous ces éléments sont des moteurs et l'économie est en dents de scie. Je pense donc qu'ils ont examiné le tableau d'ensemble.
Quelque 40% des Nigérians n'ont pas accès aux services bancaires. Selon M. Nwokolo, l'échange de devises donne l'occasion de corriger cette situation.
Cela pourrait être une autre occasion de commencer à chercher comment intégrer ces personnes dans le système bancaire. Vous ne voulez pas d'une situation où les politiciens peuvent en tirer profit et provoquer une sorte de révolte contre le gouvernement.
Les Nigérians font face depuis des semaines à des pénuries de différents produits. Essence, diesel, billets de banque, eau, électricité. Des émeutes ont éclaté lundi à Kano, la plus grande ville du Nord, dans la foulée d'une visite du président Mohamedou Buhari dans l'un de ses bastions.
Les produits d'origine animale tels que le bœuf, le poisson, la volaille et les produits laitiers sont largement présents dans de nombreux plats traditionnels africains. Certains défenseurs de l'environnement et du bien-être animal espèrent changer cela en introduisant des repas à base de plantes. Au Sénégal vient de s'ouvrir le tout premier Africa Vegan Restaurant Week à Dakar. Le reportage d'Anika Ameshlag, rendu par Nani Talani.
Il serait bon de faire d'abord quelques précisions sémantiques. Vegan signifie végétalien, qui exclut tout ce qui est production animale, alors que végétarien inclut quelques productions animales comme le lait de vache, les œufs, mais aussi le poisson. Le personnel du premier et unique restaurant entièrement végétalien du Sénégal, Kassa Teranga, prépare des plats locaux d'Afrique de l'Ouest, tels que le mafé et le yassa. Mais au lieu des ingrédients traditionnels comme du bœuf ou du poulet, ils utilisent plusieurs espèces et variétés de pois, dont les pois chiches, du manioc et une gamme colorée de légumes. Le restaurant dakarois est l'un des 15 au Sénégal à avoir participé à la récente Africa Vegan Restaurant Week, le premier événement du genre sur le continent. Pour être éligible, les participants devaient proposer au moins une option végétalienne sur leur menu. Les participants de l'alimentation végétalienne disent que c'est l'une des actions les plus percutantes que les individus peuvent entreprendre pour mettre fin aux pratiques abusives sur les animaux et pour lutter contre le changement climatique. L'abandon progressif de l'élevage animalier, surtout bovin, au cours des 15 prochaines années pourrait entraîner une réduction de 68% des émissions de dioxyde de carbone jusqu'en 2100, selon une étude de 2022. La recherche montre également que les régimes végétaliens peuvent abaisser la tension artérielle et le cholestérol et réduire les taux de maladies cardiaques. Bachir Niang, originaire de Dakar, est propriétaire de Casa Teranga avec sa femme. Bien que le restaurant soit extrêmement populaire parmi les expatriés, il affirme qu'il a été difficile de convaincre sa famille, ses amis et d'autres habitants des avantages du véganisme.
Au début, ils peuvent penser que tu es fou. Ils ne peuvent pas imaginer de nourriture sans viande, poisson ou poulet. Mais je fais une version végétalienne de mafé et ils l'apprécient vraiment. Ils sont heureux. Ils disent que c'est vraiment délicieux.
La viande de mouton, de bœuf et du poulet est omniprésente dans la cuisine traditionnelle sénégalaise. Le plat national, la tiéboudjoune, un plat de riz et poisson, est consommé quotidiennement. De nombreux Sénégalais considèrent le véganisme et le végétarisme comme une importation occidentale qui ne correspond pas à leur culture. Le propriétaire d'entreprise sénégalais Mour Meng dirige Surf Black and White, un magasin de location de surf et un café à Dakar. Comme beaucoup de Sénégalais, il est issu d'une lignée de pêcheurs libous et affirme avoir été élevé au poisson.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous. Il est...